Sumna note. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà donc une affirmation de l'éternité de Dieu. Bon, c'est à propos de la durée de notre vie, hein, c'est le point numéro 3 d'hier. Mais voilà ce qu'il dit, le psaume dit, à propos des hommes, non plus de Dieu, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retourné. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir, elle sèche. Voilà, quelque chose de très important. Au verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Voilà, c'est quand même clair. 1000 ans avant Jésus, on dit déjà combien d'années on vit. Hein? Et ce n'est pas par hasard que c'est dit, c'est Dieu qui l'a fixé. Le psaume 89, au verset 48, hein, « Jusqu'à quand, éternel, te cacheras-tu sans cesse, ta fureur s'embrassera-t-elle comme le feu ? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ?» Donc, on voit bien que la durée de la vie est limitée, et il y a le thème de la colère de Dieu, à cause du péché, bien sûr. Hein. Regardons le psaume 104, hein. Le psaume 104, au verset 14 et 15. Donc, Dieu, hein, en parlant de Dieu, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise la nourriture. Donc on voit bien que Dieu prend soin de l'homme pour sa durée de vie en tout cas. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc c'est clairement expliqué dans plusieurs passages de la Bible qu'un peu de vin réjouit le cœur de l'homme. Beaucoup, bien sûr, c'est le contraire. Et que c'est une création de Dieu pour réjouir le cœur de l'homme. Mais le pain qui soutient le cœur de l'homme, c'est clair. Je l'avais dit hier, j'avais été voir un médecin pour étudier les composants naturels du pain, du bon pain, tel qu'il était fait pendant des milliers d'années, enfin le pain moderne, industriel. Et il y a énormément de potassium, magnésium, qui est en face dans les tableaux scientifiques de ce médecin, c'était mis, prévient les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est clair que le pain soutient le cœur de l'homme, le pain naturel, le bon pain. Dieu ne se trompe pas et il l'a bien indiqué dans sa parole. Alors, le psaume 144, c'est vraiment dans les derniers psaumes, hein. 144, verset 4. Verset 4, l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Quand on est dans une prairie et qu'on voit un nuage dans le ciel, tout d'un coup il cache un peu le soleil et il y a une ombre qui court sur la prairie, hein, et qui part vite. Hein. Eh bien, c'est pour indiquer que notre vie elle passe vite. Hein. Voilà. C'est phénoménal, mais c'est comme ça. À un certain moment, on croit que la vie ne va jamais finir, mais à un moment donné, on se rend compte qu'elle se termine. Quand on est jeune, on sait qu'on doit mourir, mais ce n'est pas quelque chose qui nous effraye. On peut mourir en général, mais quand on est vieux, on sait qu'on doit mourir et que le jour se rapproche. Le psaume 39, verset 5. Psaume 39, verset 5. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Donc on a la réponse dans le psaume 90, verset 10. Évidemment. Mais c'est quand même indicatif, ce verset, que Dieu peut donner comme un avertissement qu'on n'est pas loin du terme, de la mort, du rendez-vous avec lui, en tout cas, ou du jugement, et qu'on peut lui demander. Moi, j'ai rencontré souvent ça chez des personnes âgées. Elles savaient qu'elles allaient partir quelques jours avant. Verset 6, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle.
» Attends, j'ouvre un peu. Les chats vont faire pipi dans la chambre ici.
Non, pas du tout. Non. Non, il ne fera pas. On peut ouvrir la porte de dehors, oui, bien sûr, pour qu'ils sortent. Hein.
C'est pour ça que j'ai fait.
Oui. Dans le psaume 37, verset 18, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Un point qui est important, c'est quelque chose qui a toujours choqué beaucoup de gens, c'est le fait que les Juifs sont riches. Mais c'est pas vrai, il y a beaucoup de Juifs pauvres. Mais disons proportionnellement, sur 18,5 millions de Juifs, ils ont quand même une grosse partie de la fortune de ce monde. Et ils ont d'énormes pouvoirs. Et ils fabriquent des brevets, 4% des brevets produits tous les ans sont faits par des Juifs, alors qu'ils sont très peu nombreux par rapport à 7 milliards d'habitants. Donc les brevets apportent énormément d'argent. Et les États-Unis, même la Turquie ne saurait pas se passer des Juifs. Il y a plein de pays dont l'économie s'écroulerait s'ils n'avaient pas le monde juif avec eux. Donc on va voir dans Isaïe 60 au verset 6. Isaïe 60, versets 5 et 6. Tu tressailliras alors, tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer, donc de toutes les nations du monde, se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'épha, ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges éternelles. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers Nabajot seront à ton service, ils monteront sur mon autel, ils me seront agréables, je glorifierai la maison de ma gloire. Donc il y a véritablement une nation, une richesse phénoménale qui est promise à Israël, et c'est clair qu'on peut se demander pourquoi, mais en fait c'est pas trop compliqué à comprendre. Le sud de l'Europe, dans les pays dits catholiques, on a toujours mis, plus tard la contagion est venue chez les pays protestants, partiellement, et c'est ceci, c'est que les juifs sont les fautifs, ils ont tué Jésus. Donc il y a eu un antisémitisme très profond, les métiers nobles c'est les métiers de la terre, donc on a interdit à ces gens de faire la culture. Et donc, ils ont dû se reporter sur des métiers qui étaient considérés comme maudits. Les métiers de l'argent, les métiers des arts. Mmh. Donc, les Juifs se sont intéressés à l'argent et aux arts. Ils sont devenus des maîtres. Hein, ils ont réussi. Et après, les rois, les empereurs des pays soi-disant chrétiens, y compris dans le monde orthodoxe, ont eu besoin de leur argent pour faire des guerres, pour faire d'énormes projets industriels. Et c'est comme ça que, à cause de la haine et à cause des préjugés à l'égard des Juifs, on les a poussés à se jeter sur l'argent. Et pratiquement, ça a donné leur succès. Par exemple, dans le même chapitre, au verset 16, Isaïe 60, verset 16, « Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. » Voilà, c'est clair. Il y a une richesse phénoménale qui est à la portée du peuple juif, et beaucoup de gens sont évidemment très jaloux de ça, et on a vu Hitler, mais il y en a bien d'autres qui ne savent pas les supporter à cause de ça, ou qui les fréquentent pour pouvoir avoir de leur argent. Donc la richesse financière des juifs a été annoncée, Ésaïe chapitre 60, et il y a d'autres passages, hein. C'est pour montrer que tout ça, l'autorité de la parole de Dieu, quand même, qui dit des choses, qui n'explique pas tout, mais qui apporte dans l'histoire un éclairage. Quand les choses arrivent, eh bien Dieu les savait déjà. Ça nous renseigne que Dieu est infiniment intelligent et connaît tout. Donc quand la révélation de la parole de Dieu se fait, à travers Ésaïe ou d'autres, c'est l'intelligence divine qui parle au prophète. L'homme n'est pas capable de deviner tout ça. Hein? Et puis ce n'est pas la boule de cristal, c'est pas un médium, parce qu'eux ils se trompent. Si on prend 20 médiums sur un sujet, ils vont dire des choses différentes. Ils sont en concurrence. Et on voit dans le livre de Daniel que les médiums, les mages, n'ont pas arrivé à résoudre les problèmes près de l'empereur. À l'époque de Joseph, en Égypte aussi, ils ne sont pas arrivés à interpréter les songes de Pharaon. Et encore aujourd'hui, c'est un commerce contradictoire. Alors, la parole de Dieu a une caractéristique, c'est qu'elle ne se trompe pas. Inhérence de la parole de Dieu. Deuxième chose, Dieu voit loin. Il peut nous dire, voilà, moi je sais qu'il y aura ça, ça et ça et ça. Et c'est pour nous montrer quand même que Dieu veut nous indiquer des points de repère dans l'histoire et nous montrer qu'on peut se confier à lui, il sait tout. Et qu'on devrait être un peu plus sage, moins se confier en notre petite intelligence et pas tomber dans la vanité en tout cas. Regardons un autre point, c'est la dispersion des Juifs. La dispersion des Juifs avait été annoncée dans Deutéronome, au chapitre 28, par Moïse. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement, Dieu avertit toujours. Dieu avertit, si tu obéis, si tu fais ma volonté, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, si tu t'insurges, si tu écoutes ta vanité, eh bien, il y aura des sanctions. Alors, dans le chapitre 28 de Deutéronome, c'est l'époque de Moïse, 1430 avant Jésus. Et Dieu annonce énormément de choses. Le pain, la pluie, les bonnes récoltes, etc. De nombreux enfants. Dans les 14 premiers versets, beaucoup de bénédictions si on obéit. Et dans les autres versets, à partir du verset 15... Eh bien, énormément d'ennui, le sol qui est maudit, qui ne produit plus, etc. Et la victoire des ennemis sur eux. Bon, et un esprit d'aveuglement, d'égarement sur le peuple. Hein. Tout ça, c'est dans le chapitre 28. Et évidemment, si on regarde l'histoire humaine, l'histoire tout simplement d'Israël, on voit que c'est arrivé en plus. C'est vraiment arrivé. C'est assez dur à lire, ce chapitre 28, parce que Dieu n'a pas été avec délicatesse, il a dit les choses clairement. Voilà, c'est à choisir. Tu as devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort, choisis. Donc, il faut méditer. Et jusqu'à la Shoah avec Hitler et tout, on peut voir dans tout ça l'accomplissement. Hein. Bon, il y a des gens qui, bien sûr, sont des athées, disent, ben, Dieu pareil, qui n'aime pas son peuple, qui dit l'aimer et qui fait des choses pareilles. Pour moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas ce Dieu de la Bible. J'ai entendu dire ça. Je laisse libre cette personne de le penser. Je pense qu'elle ne connaît pas vraiment l'amour de Dieu pour dire ça, toujours est-il. Alors, dans Deutéronome chapitre 29, je lis quelques versets. Versets 27 à 29. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays. Il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, et nos enfants en perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bon, évidemment, c'est un peu la conclusion des chapitres 28 et 29. Il faut faire bien attention, la colère de Dieu est une réalité. Mais quand même, les choses révélées sont à nous. et à nos enfants en perpétuité. Donc on doit tenir compte de ce que Dieu a dit. Si on n'en tient pas compte, eh bien, il ne faut pas trop lui en vouloir. Bon, cet ami qui m'avait dit un Dieu pareil, je n'en veux pas, bien sûr, c'est le refus de Dieu, tout simplement. La dispersion des Juifs peut venir d'un châtiment, d'une correction divine, mais le retour sur la terre promise, en 1948 et les années qui précèdent, et après, c'est aussi une chose annoncée, c'est aussi, ça fait partie. Et la fidélité de Dieu me semble bien plus intéressante que de toujours parler de sa colère et des châtiments. Prenons Jérémie, chapitre 9. Jérémie, chapitre 9. Et nous allons voir au verset 16. Au verset 16, « Je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères. J'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. » Donc, dans des nations qu'ils n'avaient pas connues. Mmh. Évidemment, il y a eu des Juifs en Argentine, aux États-Unis, en Russie, en Belgique, en Allemagne. Voilà, et l'épée a été derrière eux. C'est vrai que beaucoup de gens les ont poursuivis, ont fait du mal. Mais on peut voir qu'un des motifs est cité au verset 14, ils ont suivi les penchants de leur cœur, ils sont allés après les Baals, donc après les idoles. Regardons toujours dans Jérémie au chapitre 25, verset 11. Qu'on soit pour ou contre Dieu, on peut dire que ce qui a été mis dans la parole, dans la Bible, se réalise. Et c'est ça que je voudrais dire, moi. L'appréciation positive ou négative de Dieu, du Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, ça, chacun fait son choix. Et qu'il réfléchisse bien avant de le faire, hein, parce que c'est lourd de conséquences. Mais ce qui est mis dans la Bible a une portée réelle. Or, Origène d'Alexandrie, au IIe siècle, père de l'Église, on l'appelait père de l'Église, avait dit que les prophéties de l'Ancien Testament et les prophéties de la Bible n'avaient aucune portée réelle. Et donc l'Église catholique aujourd'hui considère que toutes les prophéties de l'Ancien Testament n'ont aucune portée historique, c'est allégorique, c'est symbolique. C'est pourtant drôle parce que dans Thessaloniciens, à la fin de la première épître aux Thessaloniciens, Paul dit « ne méprisez pas les prophéties ». Et puis, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit « N'ajoutez rien à ce qui a été mis dans ce livre et ne retirez rien. » Or, on voit, moi j'ai été prêtre et je sais que j'ai dû étudier la théologie catholique pendant des années et c'est clair que les prophéties n'ont pas de portée historique, portée réelle. Mais c'est faux pour moi maintenant. C'est complètement faux. C'est une offense à Dieu, pure et simple. Alors, chapitre 25 de Jérémie, verset 11, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans, 70 ans. Ben, » effectivement, hein, c'est ce qui est arrivé. C'est arrivé, 70 ans. Et puis après, Babylone a été vaincue par Cyrus, l'empereur de Persépolis, donc l'Iran, si on veut, aujourd'hui. Et c'est lui qui a donné l'argent, les permissions pour reconstruire, et qui 43 000 personnes sont reparties vers Jérusalem pour retourner vivre et reconstruire le temple et les murs. Donc tout ça, ce n'est pas la fumisterie, c'est une réalité plus qu'historique et très prophétique. Regardons au chapitre 29, verset 10. Chapitre 29, verset 10 de Jérémie, toujours. Et ben, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Alors quelque chose qui est quand même pas seulement, je dirais, rattaché au fait de retourner de Babylone vers Jérusalem, mais qui est venu plus tard. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Donc là, on voit qu'il y a une autre déportation, et c'est celle de Titus en l'an 79, hein, 79, un général romain qui a déporté tout Israël, qui a tout rasé de nouveau, comme Nebuchadnezzar l'avait fait, et donc en 1948, Israël a été recréé. Donc ce qui est essentiel, c'est de chercher Dieu de tout son cœur, pour plaire à Dieu, pour le respecter. Regardons au chapitre 52, verset 14 de Jérémie. Toute l'armée des Chaldéens, donc les Chaldéens c'est les Irakiens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Hein, c'était Nebuzaradan, chef, hein, et tous les autres généraux. Ça c'était annoncé par Jérémie, c'était annoncé par Isaïe, et ça s'est réalisé. Hein. Donc, ce cataclysme pour une nation, de la part de Dieu, était annoncé, était mérité, parce que ce peuple se moquait de Dieu. Donc on ne joue pas avec Dieu, c'est ça qu'on peut en tirer comme conclusion. Et ce peuple a souvent joué avec Dieu. Regardons Ésaïe, Ésaïe chapitre 10. Ça ne veut pas dire que ce peuple est parfois pire que nous, non? Je pense que nous avons souvent la même attitude. Hein? Quand ce peuple est puni, bon, au chapitre 9, à partir du verset 7, et le début du chapitre 10 jusqu'au verset 4, c'est un châtiment, c'est une colère de Dieu sur ce peuple, parce que tout le monde est dans la tricherie, dans la méchanceté, et écrase le petit, l'orphelin, etc. Mais quand ces gens vont venir de Babylone, donc de l'Irak, pour punir, ils vont tellement être féroces, tellement durs, tellement méchants, que ils vont être punis aussi. Verset 5, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. » Donc, Dieu l'a utilisé comme une verge pour exercer de la colère sur Israël. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Donc, l'invasion est quelque chose que Dieu a voulu. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur, il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Donc, si Dieu a donné une impulsion à Nebuchadnezzar et aux Irakiens, aux Chaldéens pour châtier Israël, ben, ils en ont fait un carnage général de toute la région. Et donc, si on lit le reste du chapitre, on voit qu'ils s'en sont pris à l'Égypte, etc., à Damas, etc., et à d'autres peuples, avec excès, avec férocité. Ça, Dieu ne peut pas supporter. Il a donné un ordre, mais ils l'ont dépassé. Et ils vont être punis aussi. Voilà, on va en rester là. Ça, c'était le point 14. On va regarder le point 15. Il s'agit d'écologie. Est-ce que l'écologie concerne la Bible? Eh bien, Jérémie, chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Est-ce que l'écologie est un problème qui est abordé dans la Bible? Chapitre 12, verset 4. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? L'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Donc, Dieu ne verra rien de notre fin, etc. On sera toujours vivant, on aura toujours la prospérité, Dieu ne verra pas, n'a aucun pouvoir sur nous. Donc, ici, le prophète dit, même les oiseaux et les bêtes des champs périssent à cause de la méchanceté des habitants. Ben, c'est un peu la même chose aujourd'hui dans le monde moderne. L'homme est féroce à propos de la nature et irrespectueux. Regardons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 65. Ésaïe 65, verset 25. Verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le serpent aura la poussière pour nourriture, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc on voit que l'écologie et le rapport des animaux entre eux, tout cela est lié à un contexte plus vaste. Et c'est au verset 17. Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, ne reviendront plus à l'esprit. Donc, Dieu change le rapport de toutes les choses et de tous les animaux. Et pourquoi? Parce que quand il avait créé la terre, le loup ne mangeait pas l'agneau. Le lion ne mangeait pas le bœuf, le serpent ne mordait personne. Et c'est clair qu'après le péché d'Adam et Ève, tous ces animaux ont connu une corruption dans leur comportement, dans leur façon d'être, entre eux et pour les autres animaux, et même vis-à-vis des hommes. Donc on voit que l'écologie est liée à l'état spirituel du monde. Et le péché a une grande importance sur l'écologie, une grande incidence. Donc, regardons au chapitre 5, Ésaïe. Chapitre 5. Chapitre 5 d'Ésaïe. Verset 6. Quand Dieu est en colère sur un peuple qui produit tellement d'injustice, tellement d'iniquité, il peut bien sûr empêcher la pluie, il peut empêcher la production des champs, etc. Ça paraît anormal pour la civilisation moderne de penser des choses pareilles. On pense que Dieu n'intervient pas dans tout ça, qu'il n'y a pas de bon et de mauvais comportement, et qu'il n'y a pas de sanction de Dieu. On pense que tout simplement, il faut trouver les trucs scientifiques pour résoudre les problèmes. Ça, c'est la méthode moderne, l'attitude moderne. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la Bible, c'est un Dieu qui rétribue, suivant l'état d'âme et le comportement des humains. Donc au verset 6, chapitre 5, verset 6, « Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les épines y croîtront, je donnerai mes hortes aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. » Donc, qu'est-ce qui va se passer à cause de ça? Eh bien, c'est que toute la prospérité du pays et du peuple va disparaître. Parce qu'on n'y trouve pas la droiture, on n'y trouve pas la paix, voilà. Et on voit au verset 8, « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ. » Donc il y a des gens qui s'approprient tout, et qui ne laissent plus rien aux autres. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le capitalisme à outrance, hein. Un peu plus loin, au verset 18, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, le péché, comme avec les tris d'un char, qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyons. » Donc, ils se moquent de Dieu. Verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, la douceur en amertume. » Donc, l'inversion des valeurs, l'inversion des sentiments aussi. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Donc Dieu est en train de montrer, dénoncer la perversité et tous les fruits de l'orgueil. Donc du fait de la corruption spirituelle, Dieu met une sanction sur la nature et sur la richesse économique d'un pays. Voilà. Ça, c'est extrêmement important, même si aujourd'hui on ne veut pas l'admettre, la Bible, dans l'Apocalypse, annonce des choses comme ça pour les temps à venir, si on continue, et on continuera, je pense, jusqu'au bout, jusqu'au finish, et on continue dans l'injustice, et dans la corruption sexuelle, etc., l'immoralité. Au chapitre 11 d'Ésaïe, versets 1 à 10. Par contre, si la nature est troublée par le péché et par des mauvais comportements, quand le Christ reviendra, il fera l'inverse. Il apportera de grandes bénédictions parce qu'il est plein de vérité, plein de sagesse, rempli de l'Esprit Saint. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, donc un descendant de David, hein. Un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Donc voilà un maître de sagesse, un juge parfait pour la terre. C'est bien sûr le Christ. Il jugera les pauvres avec équité, prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits auront un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Donc on voit qu'on a, avec le Christ, dans son règne, un retour de la situation avant le péché d'Adam et Ève, où la nature était en paix. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du serpent. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe, donc le Christ, sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Donc, on voit vraiment que, et puis on cite tous les pays qui vont être quelque part bénis et les autres sanctionnés. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport direct entre l'écologie et la prospérité des peuples, et l'état de grâce ou de péché des hommes. Et que Dieu est un Dieu qui rétribue, non pas seulement après la mort, mais déjà dans l'histoire des hommes. Aujourd'hui, il est difficile pour des Européens et la pensée occidentale d'accepter ça. Dans d'autres peuples, on le pense réellement, on est convaincu que Dieu bénit et peut maudire aussi. Un peu sanctionné. Regardons le psaume 89. Psaume 89, verset 12. Psaume 89, verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Bon, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement que Dieu est le patron, le propriétaire des choses, c'est pas nous. Nous ne sommes que des gérants. Nous devons rendre compte de notre gestion à Dieu. Hein? Voilà. Tout le psaume va dans ce sens, hein, et il parle bien sûr du Christ. Au verset 28 à 30. C'est fort important de comprendre que c'est Dieu le patron, le maître. Et les hommes n'ont pas à disposer d'une manière vaniteuse de cette terre. Le psaume 97, verset 9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Donc les dieux, bon, les dirigeants du monde, etc., hein, les institutions financières, les vedettes, tout ce qui, quelque part, séduit l'homme et veut le conduire. Donc tu es le Très-Haut sur toute la terre, c'est pas le Très-Haut dans les cieux, c'est sur terre. Et ça, donc, ça montre bien dans la Bible que Dieu a un rapport direct avec la réalité d'aujourd'hui, hein, la réalité humaine. Prenons le psaume 104. Trop souvent, on pense que Dieu est loin, hein, très loin, très loin. Oh là 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 là, il ne s'occupe pas de nous, il ne sait pas, il ne voit rien. Tous ces textes-là, je les prends pour qu'on se rende compte que c'est plutôt nous qui ne voyons pas grand-chose, mais Dieu voit tout et Dieu sait tout. Psaume 104, verset 5. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Donc, quand on entend des films écologistes où c'est parfois très alarmant et tout, mais non, nous en tant que croyants, on sait que Dieu aura le dernier mot, c'est lui qui dirige. Hein? Alors, tu l'avais couverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Donc les eaux sur les montagnes, c'est bien sûr le déluge. Hein. Verset 8. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont baissées au lieu que tu leur avais fixé. Donc ça, c'est ce qu'on a découvert, hein, avec les théories de Wegener en géographie, en tectonique, ça veut dire l'étude des forces entre les continents, etc., les continents qui se poussent l'un et l'autre, et quand ils rentrent en collision, ils provoquent la montée de certaines régions, on fabrique les montagnes. À d'autres endroits se font des vallées, se font même des effondrements. Eh bien, on voit ici que l'an 1000 avant Jésus, déjà la Bible en parle. Eh bien, dans Job, chapitre 38, c'est la même chose. Et là, c'est un texte du 21 siècle avant Jésus. Donc, Dieu a une autorité sur l'état du monde, à tout bout de champ, tout le temps. Regardons verset 10. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'air pour le bétail, les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise la nourriture, etc. On voit que l'homme est situé dans la nature, mais surtout situé dans une orchestration divine de la nature. Et prenons par exemple le verset 23 et 24. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tout ce psaume montre bien que l'homme est partie intégrante d'un système écologique, d'un système sous la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, c'est l'adoration. Hein. Verset 31, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles sont fumantes, donc les volcans. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. Donc l'adoration à laquelle nous invite ce psaume est une chose due à Dieu, une chose légitime. Mais combien de fois aujourd'hui, dans tous les discours, dans tous les films, ah, la nature a bien fait les choses. C'est l'évolution qui a voulu que, etc. Bon, jamais, jamais on ne dira des choses comme dans ce psaume actuellement. Et c'est en fait une injure à Dieu. Le fait de parler comme ça, c'est l'injure à un Dieu vivant, éternel, qui entend tout, qui voit tout, et qui a tout dans ses mains. C'est sous le jugement de Dieu de telles paroles, où on ignore volontairement Dieu. Donc l'écologie, l'adoration, l'action de grâce, tout ça va ensemble. Une écologie sans une reconnaissance de Dieu et une action de grâce devient une offense à Dieu. Alors qu'elle veut bien faire parfois, mais elle devient une offense à Dieu. Bon, maintenant, je voudrais prendre un autre texte sur un sujet historique. En 1948, en Jordanie, un explorateur anglais découvre dans les montagnes, à travers une gorge, où passait un ruisseau, il découvre une ville toute sculptée dans la montagne, avec des salles, des palais et tout, que personne ne connaissait, et qu'on appelle la ville de Petra. Maintenant, il y a des milliers de gens, tous les ans, qui visitent ça, Petra. Eh bien, en fait, cet homme-là avait lu la Bible, il avait lu des passages en se disant, mais il y a quelque chose. Et donc, il a été voir, il a cherché. Ce n'est pas tout de suite qu'il a trouvé. Il a cherché, il a été persévérant, il relisait les textes de la Bible, et puis il a trouvé. Et donc, s'il n'avait pas lu les textes de la Bible, Petra serait encore aujourd'hui peut-être sans aucune signification. Et on aurait pu dire, la Bible, encore une fois, parle de choses idiotes qui n'ont pas de sens. Bon, allons voir dans Jérémie, au chapitre 49. Alors, en fait, les descendants d'Ésaü, les deux fils de Isaac, c'est Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est l'ancêtre de tous les gens qui habitent cette région de Jordanie, du sud de la Jordanie. Et les descendants d'Ésaü n'ont pas été tendres avec les descendants de Jacob. Quand Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem et qu'il a cerné la ville, et qu'il a massacré tout le monde, il y a une partie de la population qui s'est sauvée et qui est arrivée dans la région du sud de la Jordanie, dans la région des montagnes où se trouvait Petra, cette ville. Ils ont été refoulés, ils ont été rechassés avec violence vers les armées, les soldats de Nebuchadnezzar, et ils ont péri, tous ces gens-là, où ils sont partis comme esclaves. Et Dieu a toujours dit, il y aura une sanction sur ce peuple qui n'a pas aimé ses cousins, qui a été injuste, qui a été féroce. Il y aura une sanction sévère. Alors, lisons Jérémie chapitre 49, verset 15. Jérémie 49, verset 15. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur, t'as guéri, toi qui habites le creux des rochers, qui occupe le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom, c'est donc cette région-là, c'est un autre nom pour indiquer cette région. Édom sera un objet de désolation, tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera plus le séjour d'aucun homme. Voilà. Et ça continue, il faut lire tout. Et je lis le verset 22. Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros des Dômes est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Alors, en fait, c'est dans les années 160 après Jésus-Christ qu'un général romain a découvert cette ville et lui, pour faire mourir tout le monde, pour prendre la ville, a coupé le haut. Et cette ville a été prise par les Romains en l'an 160. Et l'aigle, hein, qu'on voit ici, verset 22, l'aigle, c'est le symbole de Rome. Ça va ? Et donc, c'était une prophétie pour préciser que Rome, beaucoup plus tard, ferait la conquête de Petra, parce que c'était une ville imprenable. Quand ces gens se sauvaient, on ne la retrouvait jamais. C'est donc très intéressant de voir que Dieu avait prévu, avait annoncé cette trahison des descendants d'Ésaü, de Édom, à l'égard de leur cousin de Jérusalem, en 605 jusqu'en 598, quand Nebuchadnezzar est arrivé, a ruiné Jérusalem, et puis qu'il a prévu une sanction qui est tombée que beaucoup plus tard, quasiment 7 siècles et demi après. Mais elle est quand même arrivée. Et cette ville n'a jamais été plus été habitée, comme de fait. Regardons le petit livre de Abdias. Donc le petit livre de Abdias. C'est un prophète, Abdias, mais il n'a pas écrit beaucoup. Et il parle justement de cette ville. Cette ville qui est sanctionnée par Dieu. Et bon, c'est un livre qui n'est pas facile à trouver parce qu'il est si court, si petit, qu'on se demande toujours où il se trouve. C'est juste après le prophète Amos. Juste après le prophète Amos. Donc, dans Abdias, c'est un prophète qui annonce la ruine de Édom. Abdias, c'est du 8e siècle avant Jésus, et qu'est-ce qu'il dit ? Prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Donc parmi les nations, Rome se composait d'une multitude de nations. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Et c'est vrai qu'après les Romains, il y a eu d'autres. Il y a eu, à un moment donné, les pillards arabes qui sont venus prendre des tas de choses. Alors, verset 6. « Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas, en ce jour, dit l'Éternel, je ferai disparaître des dômes les sages, et de la montagne d'Ésaü, l'intelligence ?» Tes guerriers, ô Téman, donc c'est la région montagneuse où se trouve cette ville, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Ben oui, l'empereur romain qui a fait le carnage de cette ville. Alors voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que la Bible raconte des choses qui se sont accomplies. Et si cet explorateur en 1948 n'avait pas accordé du crédit au texte de Jérémie et au texte d'Abdias et encore un autre passage dans Ésaïe, il n'aurait jamais passé du temps à chercher après cette ville et aujourd'hui on ne la connaîtrait peut-être pas encore. Donc ce qui compte, c'est de savoir que quand quelque chose est dit par Dieu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une fausse prophétie. Bon, prenons maintenant Amos, chapitre 8, c'est juste avant Abdias. Et qu'est-ce que, par exemple, Amos dit pour nous? Dans Amos, chapitre 8, moi je suis frappé aujourd'hui par la difficulté des jeunes de savoir quel va être leur avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et En général, ils n'ont plus vraiment de projet, sauf des exceptions, ils n'ont plus vraiment de projet pour la société. Alors, ils se regroupent par petits groupes, ils cherchent à s'amuser ensemble et à ne pas s'intéresser au monde parce qu'ils sont déprimés. La sinistrose les gagne et puis ils sont déçus. Et il leur semble que c'est impossible de trouver un sens à ce monde, à leur existence. Eh bien, regardons Amos, chapitre 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Donc il y a une faim et une soif. Hein? « Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. » Donc, ces jeunes-là, toute une jeunesse va chercher un sens à sa vie et ne vont pas trouver la parole de Dieu. Pourquoi ? Ben parce que les églises ne la donnent plus. La plupart des églises ne prennent plus la parole de Dieu au sérieux. Et que la société laïque fait en sorte que les églises n'aient plus de pouvoir, n'aient plus de capacité de prédication, de se faire connaître. Donc, énormément de jeunes sont démunis et n'ont plus la Bible devant eux, n'ont plus la révélation divine, surtout l'Évangile et Jésus. Tout à l'heure, à table, quelqu'un disait, mais ils savent tous lire, ils ont tous la possibilité de lire la Bible. Oui, mais moi, je pense que si quelqu'un ne vient pas donner une Bible à quelqu'un, il ne va pas aller la chercher, il ne connaît pas ce que c'est. À cause du fruit du péché, nous sommes aveugles, nous ne pouvons pas aimer quelque chose que nous ne connaissons pas. Donc, en ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Donc, il y a comme un désespoir, une perte de sens, quelque chose vraiment de grave qui se passe dans le cœur de la jeunesse. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. On va reprendre ce sujet, tous ces sujets, demain. Hein. Aujourd'hui, eh bien, on n'a pas tout fait, hein. On a fait quelques points. On a fait quelques points, mais c'est pour montrer que la Bible a une incidence et qu'il faut la prendre au sérieux, elle a une autorité certaine.